Vision d'Histoire.
Bonjour et bienvenue à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais, je suis historienne. Fait plaisir de vous retrouver comme à chaque semaine. Aujourd'hui, nous intéressons au monde scolaire avec la thématique « Enseigner au Québec, un métier exigeant depuis toujours ». Nous recevons avec grand plaisir Mme Brigitte Collier, professeure associée au département des sciences historiques de l'Université Laval et chercheuse au Centre interuniversitaire d'études québécoises. Bonjour Mme Collier.
Bonjour Mme Dumais.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dirais que votre visite, c'est à l'occasion de la publication d'un extraordinaire ouvrage aux presses de l'Université Laval. Donc, l'École au Québec, que vous avez co-dirigé avec Mesdames Dufour et Hamel. C'est un livre de plusieurs centaines de pages, un livre assez imposant, on peut le dire. Je me demandais, quel est l'objectif de cet ouvrage extraordinaire?
Alors, c'était de rendre compte de la complexité du système scolaire au Québec, de son élaboration, en tenant compte de différents critères, dont la colonisation, la diversité culturelle et ethnique qui se déploie sur un territoire immense. Donc, il y a une dimension géographique qui est très importante et nous avons profité de toutes les recherches qui se sont faites dans les dernières années, que ce soit en histoire des femmes, en histoire de l'éducation, bien sûr, et aussi du côté du secteur anglophone où nous avons eu des synthèses récemment qu'on a pu intégrer dans notre ouvrage en facilitant aussi la traduction de textes anglais.
C'est un ouvrage imposant. Si je ne me trompe pas, il y a à peu près 27 collaborateurs. Donc, de diriger un ouvrage comme ça, c'est ambitieux.
Oui, c'est ambitieux. J'ai eu de l'aide en particulier d'André Dufour qui a contribué jusqu'aux derniers instants à ce projet. Ce sont des auteurs de plus qui sont à la fois engagés dans des recherches des professeurs d'université, des étudiants aussi et des étudiantes qui ont pu être intégrés au projet. Donc tout le monde avait aussi son travail à faire en parallèle, ses recherches principales. Donc c'est un surcroît pour eux de travail et je suis très honorés qu'ils aient accepté de participer à cet ouvrage.
Cet ouvrage s'intègre dans une collection qui s'appelle Atlas historique du Québec, qui est issu du travail du SIEC. Pouvez-vous nous présenter le SIEC et aussi cette collection?
Bien, le SIEC, c'est le Centre interuniversitaire d'études québécoises qui a 30 ans et qui a développé, qui travaille justement sur le Québec, sur l'évolution du Québec, et qui a comme projet fédérateur pour ses chercheurs l'Atlas historique du Québec. Donc, un ouvrage qui, je dirais, qui n'est pas aride dans la mesure où il n'y a pas seulement des planches, des cartes, on pourra en reparler, mais qui intègre donc des textes et qui se veut aussi d'une approche pédagogique. Donc, mettre en image aussi le propos que nous avons, le mettre en carte, bien sûr, mais pas que.
Et vous avez, pour cet ouvrage, l'École au Québec, fait le choix de 6 chapitres. Il y avait une profusion de thématiques possibles. Vous en avez privilégié 6. Comment vous avez fait pour faire ce choix?
Ça, c'est l'œuvre collective du groupe qui s'est réuni à plusieurs reprises pour élaborer un plan. Ça tient compte aussi des disponibilités des chercheurs et des chercheuses. On n'a pas prétention d'avoir tout couvert. On a dû faire des choix à un moment donné, comme s'arrêter avant les grandes réformes des années 60 et ne pas traiter de l'université. Alors, il reste de la place pour un autre volume ou plusieurs autres. Donc, nous avons travaillé dans un premier temps, évidemment, sur l'élaboration du système scolaire, donc des petites écoles au système scolaire. C'est bien sûr le plus gros chapitre qui porte essentiellement sur le primaire. Nous avons consacré un chapitre complet à la scolarisation des enfants des minorités et des autochtones. Ensuite, nous avons voulu regarder ouvrir la porte de l'école pour voir le lieu d'enseignement, d'éducation aussi, parce qu'il s'agit d'instruction, mais pas seulement. Et nous avons fait suivre une quatrième partie qui porte sur le corps enseignant. Et nous avons travaillé également sur la formation secondaire, les passerelles vers l'université, ou les fermetures vers l'université, nous y reviendrons. Et nous avons conclu sur un chapitre qui porte sur les besoins du monde du travail. Quelles ont été les réponses qui ont été données au développement de l'agriculture, à l'industrie, au travail de bureau?
Vous avez fait allusion tout à l'heure au fait que ça s'intégrait donc dans la collection Atlas historique. Donc, on voit très bien, par exemple, l'apparition de l'aspect spatial, les cartes, les plans. Mais il y a aussi, vous l'avez mentionné, une très, très belle iconographie. Et là, on voit qu'il y a vraiment du temps qui a été mis dans le choix des images.
Oui, et on a voulu, on a demandé aux chercheurs de réfléchir aussi en fonction de l'iconographie, parce qu'on a tendance, parfois en histoire, à être assez abstrait. Et là, nous voulions que les chercheurs réfléchissent aux objets, aux images de l'éducation et ne pas se limiter, je dirais, à ce qui paraît une évidence comme les photos des institutions scolaires, les écoles ou les mosaïques de classe. C'est un peu ce qui nous revient tout de suite à l'esprit. Donc, on voulait dépasser l'image, même si elle est fort intéressante, des enfants bien alignés, bien propres, qui se posent devant l'objectif. Donc, ça veut dire que nous avons eu des contacts avec de nombreux centres d'archives pour essayer donc d'avoir une iconographie très variée. Alors, ça veut dire des plans architecturaux. Ça veut dire aussi qu'on a intégré des résultats, par exemple, statistiques avec des graphiques, des tableaux. Émilie Lapierre-Pintal, qui a travaillé à la mise en page de l'ouvrage, qui était une personne extraordinaire dans le domaine, elle m'a conté que nous avions 383 images dans l'ouvrage. Et ce qui veut dire qu'il y a une banque d'images qui est bien plus généreuse que ça au centre.
Et on s'aperçoit de façon globale que vous avez voulu tisser de façon serrée les relations qui sont parfois assez complexes entre les collectivités et les systèmes scolaires.
Oui, parce que en fait, on peut facilement essayer de partir de l'État et de voir comment l'État a développé ou s'il a résisté au développement des systèmes scolaires. On a préféré jouer, et la géographie nous y aidait, sur les dynamiques entre État et communauté. Et ça nous permet de voir justement quelles sont les demandes aussi formulées du bas des communautés, les demandes en éducation, en instruction. En même temps, c'est diversifié au Québec parce que nous avons des intérêts qui sont très divers. Pour les francophones, ce sera la sauvegarde de leur identité, de leur langue. Pour les anglo-protestants, c'est le développement des institutions qu'ils ont toujours connues avant de venir sur le territoire. Et on peut aussi, par ces comparaisons-là, voir les inégalités qu'il y a eu entre les groupes. Et donc, tout le système scolaire est au cœur de tensions identitaires, d'aspirations nationalistes et aussi d'un positionnement colonialiste qu'on ne peut pas nier.
Et aussi, ça nous permet de voir comment l'école est aux intersections de plusieurs aspects de la vie. C'est-à-dire, on a l'aspect politique, évidemment, l'aspect religieux, l'aspect culturel, et il y a même plus que ça.
Oui, tout à fait. Et c'est des aspects qui sont très importants parce que à chaque positionnement vont correspondre des initiatives scolaires. Et dans la première moitié du 19e siècle, on a vraiment des projets qui se développent, qui s'implantent, qui sont très différents les uns des autres, qui peuvent à la fois être privés, publics. Et c'est un élément c'est une diversité qui est tout à fait intéressante, qui progressivement se diluera dans une uniformisation plus importante, mais on a vraiment des projets très différents qui s'implantent en particulier, qui s'expérimentent, je dirais, en ville.
Brigitte Collier, si maintenant on s'intéresse au contenu même de l'ouvrage, on pourrait commencer par toute cette question du besoin de scolarisation et les débuts de l'école primaire.
Alors, il ne faut pas oublier que dès le régime français, en Nouvelle-France, on a développé des écoles. On est dans la droite ligne de la contre-réforme catholique. Donc, l'idée que les enfants doivent être formés et fréquenter l'école, elle est acquise. Hein? Elle est acquise. Et donc, on a plusieurs institutions, plusieurs communautés religieuses qui se sont mises en place et qui ont développé leurs institutions. C'est certain qu'avec la conquête, il y a une fragilisation évidente de ces institutions scolaires qui étaient déjà en place. Et on a également, parallèlement à ça, une multiplication des initiatives avec des buts différents. Il faut... La bourgeoisie veut une bonne éducation pour ses enfants. Elle veut aussi que les immigrants pauvres ou la population catholique pauvre francophone est une éducation qui en fasse des bons citoyens. Il faut moraliser. L'école est un lieu d'éducation. Donc, on a une superposition, carrément, d'initiatives privées et publiques. Et, en même temps, on a l'État qui va développer des propositions qui seront parfois contestés, mais ça nous donne un résultat assez fascinant et pour les historiens quand même qui demandent beaucoup de travail, c'est qu'on a eu carrément dans la première moitié du 19e siècle trois systèmes scolaires mis en place et qui vivent en parallèle à des niveaux différents. Il y a une forte demande de scolarisation. Bien sûr, la question qui est sous-jacente, c'est qui va payer pour ces écoles? Est-ce que l'État va s'engager? Est-ce qu'il va falloir continuer de demander aux églises de poursuivre le financement des institutions scolaires? C'est toute la question qui se pose au 19e siècle.
Et donc, on est passé d'un système plus ou moins privé où des initiatives privées, soit de communautés religieuses, de l'Église, etc., sont importantes, à cet enjeu fondamental au 19e siècle de dire quelle va être la part de l'État, dans le fond, dans le système scolaire. Et aujourd'hui, ça a changé de nom il y a quelques années, mais il y a tout l'enjeu des commissions scolaires.
Oui. L'idée qui va être très importante, donc, c'est de créer, et ça progressivement, surtout après les insurrections de 37-38, où il y a vraiment des remises en cause importantes, il va falloir créer une structure qui, je dirais, satisfasse l'État qui ne veut pas trop s'impliquer, mais en même temps, des organismes, je dirais, de contrôle, d'uniformisation de l'enseignement. Donc, j'irais à l'échelle locale, vont se développer à partir des années 1840 des commissions scolaires qui permettent un financement limité de l'État. C'est sur les taxes foncières que les commissions scolaires prélèvent l'argent qui va servir à développer les écoles, qui va permettre d'embaucher les maîtres. Les commissions scolaires surveillent aussi le calendrier scolaire. Il y a évidemment des différences énormes de commissions scolaires en commissions scolaires. Et c'est ce qui amènera également progressivement à développer un système d'inspectorat pour essayer d'uniformiser l'enseignement, contrôler aussi les commissions scolaires.
Ça doit rappeler des souvenirs, cette question des inspecteurs d'école à certaines auditeurs et auditrices. Et on voit très bien le lien entre la notion du territoire et l'éducation scolaire. Là, on a un concept qui est fondamental pour parler d'Atlas, je vous dirais.
Tout à fait. Et c'est ce qui nous a permis aussi, on a un chapitre sur les inspecteurs et un portrait d'inspecteurs. Et on a pu retracer l'itinéraire d'un inspecteur en Mauricie. Qui avait un vaste territoire à contrôler, et on peut voir d'année en année, avec le développement de la colonisation, la création de nouveaux villages, on voit son territoire d'inspectorat se développer de façon énorme, et ça, on a pu le cartographier, ce qui est intéressant. Et on a parfois une image assez dure des inspecteurs, peu affable avec les institutrices de rang, mais en même temps, ils ont permis à la fois de discipliner certains commissaires scolaires, de vérifier leurs finances, et en même temps de redonner de l'information, faire remonter de l'information au niveau du surintendant de l'instruction publique, qui est le responsable. On n'a pas de ministre à ce moment-là, mais depuis les années 1840, on a un surintendant de l'instruction publique et qui reçoit les rapports des inspecteurs, et ça va permettre tranquillement d'uniformiser les programmes, l'organisation des écoles.
Dans ce 19e siècle, il y a deux personnes qui se distinguent par leur rapport au monde scolaire au Québec, je crois. Il y a Jean-Baptiste Meilleur et il y a Pierre-Olivier Chauveau. Pouvez-vous nous les présenter?
Ce sont les deux premiers surintendants qui se sont impliqués pour le premier, qui est le cofondateur du Collège de l'Assomption. C'est un médecin, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à l'éducation, qui a, je dirais, lancé tous les projets possibles. Il est resté en poste de 1841 à 1855 et c'est celui qui a été, je dirais, au front, qui a subi les oppositions à plusieurs projets. Je dirais que de ce point de vue-là, Chauveau, lui, a pu poursuivre et mettre en application des idées qui étaient défendues par Jean-Baptiste Meilleur. Chauveau, il a été à la fois donc surintendant, à l'origine du journal de l'instruction publique, il a pensé aux retraites pour les instituteurs et les institutrices. Il avait l'idée et il l'a mise en place pendant quelques années de la formation secondaire pour les garçons et les filles. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'il a été ministre de l'instruction publique lorsqu'on a eu un ministère de l'instruction publique au 19e siècle, donc de 1867 à 1873.
Thank you.
Brigitte Collier, on a insisté sur l'importance du 19e siècle. Au 20e siècle, il y a un autre enjeu qui arrive dans le décor. Et on s'aperçoit en parcourant l'ouvrage qu'on n'était pas en avance sur les autres provinces scolaires et de loin. C'est la question de la fréquentation scolaire obligatoire. Pourquoi ça posait tellement de problèmes?
Alors, c'est un enjeu très important qui n'est pas nouveau, mais c'est seulement en 1943, ce qui est exceptionnellement tardif, qu'on le règle lorsque l'on arrive à une obligation de la fréquentation scolaire jusqu'à 14 ans. C'est pas 16 ans, c'est encore 14 ans. Mais ça a été un débat avec des projets de loi depuis la fin des années 1800, du 19e siècle. C'est revenu à plusieurs reprises. Il y a des oppositions très importantes, des oppositions conservatrices, qui veulent que cette question-là, elle est du ressort de la liberté du père de famille. Fréquenter l'école, c'est une décision qui doit revenir au père de famille. Ça a été très fort dans l'Église catholique. Je vous cacherai pas que du côté protestant, on a mené ces projets d'obligation scolaire tambour battant. Mais il y a toujours eu une résistance du haut clergé face à cette obligation. Ce qui fait qu'on arrive à une décision tardive. Il n'empêche que ça ne signifie pas les enfants n'allaient pas à l'école, mais on a quand même noté un retard du côté des francophones sur ce point.
Et vous évoquez la question du côté anglophone, du côté francophone, francophone catholique, anglophone protestant. Donc, on a des systèmes qui sont assez cloisonnés.
Tout à fait. C'est le système public. Le système scolaire public s'est créé sur la base de la confessionnalité, qui recoupait en partie les différences linguistiques. Mais plus on avance, plus les systèmes se séparent et s'organise de façon autonome. Alors, ça commence par un conseil de l'instruction publique qui est mis en activité en 1860, qui comprend déjà des membres qui sont catholiques et protestants, avec un chiffre bien identifié pour chacun. Et avec la Confédération, en 1867, l'éducation qui est de compétence provinciale se développe sur la base des divisions religieuses et on arrive progressivement à une autonomie du côté protestant et la création de deux comités. Hein, ces fameux comités catholiques et protestants qui ont encore des échos et qui ont duré très longtemps. Donc, on a là un système qui va se développer de façon parallèle et avec, évidemment, très concrètement, des taxes scolaires qui vont être ventilées en fonction de l'appartenance religieuse des payeurs de taxes.
Vous venez d'évoquer cette séparation entre deux mondes, mais j'ai envie de vous dire, il y avait des immigrants qui étaient anglophones, mais catholiques. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux-là?
Eh bien, c'est toute la question qui nous a occupés pour le chapitre qu'on a consacré aux enfants autochtones et aux minorités. Parce que justement, ce système-là n'a pas vertu d'être très souple. Justement, quand arrivent des groupes qui ne sont pas, soit par la langue, soit par la religion, intégrables à ces deux secteurs d'éducation.
Et qu'est-ce qu'on leur propose à ce moment-là?
Alors, on va leur proposer, et nous y reviendrons certainement plus en détail, on va leur proposer de se développer à l'intérieur du système, mais sans avoir, je dirais, tous les moyens pour le faire.
Il y avait aussi une minorité juive au Québec.
Oui.
Donc, eux aussi ont un choix qui n'est pas simple dans ce décor-là.
Non. Dans le cas de la minorité juive, dans un premier temps, je dirais, comme l'ont fait les anglo-protestants immigrants, ils vont développer, la minorité juive va développer des écoles privées en fonction, je dirais, de la coloration à la fois religieuse, idéologique de la communauté qui veut se prévaloir d'une école. Donc, on a pu avoir des propositions qui sont, je dirais, un peu plus socialistes. On a pu avoir des écoles qui sont très, très confessantes et observantes. Mais ce qui est moins connu, c'est que les écoles, les enfants juifs, qui sont en forte augmentation à la fin du 19e siècle, vont fréquenter les écoles protestantes. Les protestants vont les accueillir dans leurs écoles pour à la fois des raisons de maintien de leur clientèle, mais aussi parce que les familles juives tiennent à ce que les enfants soient élevés en anglais. Donc, là, il faut parler de chiffres. Si on prend le début des années 1920, il y avait plus de 12 000 enfants, soit près de 45% d'enfants juifs à la commission scolaire protestante de Montréal. Donc, on arrive à une situation, et c'est très, très bien évoqué dans l'ouvrage, d'écoles, par exemple près de la Maine, à Montréal, qui sont fréquentées par 90% et plus d'enfants juifs, avec des professeurs juifs, et quand le nombre est si élevé, suivant un calendrier qui respecte le calendrier religieux.
Brigitte Collier, on est déjà à la fin de cette première émission. Il y a un autre groupe qu'il faudrait évoquer en début de deuxième émission, qui est toute la question des enfants autochtones et des pensionnats. Vous y consacrez plusieurs pages parce que c'est un sujet très important. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez co-dirigé donc l'École au Québec aux presses de l'Université Laval dans la collection Atlas historique du Québec avec Mesdames Dufour et Hamel. Merci beaucoup et on vous attend la semaine prochaine pour la suite.
Merci.
Merci à Thierry Boutin pour la mise en onde, à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une seconde émission avec l'historienne Brigitte Collier.